c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poder.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée le mardi à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour, Béatrix.
Bonjour, Eduardo.
Et à la technique, Simone. Au sommet de cette semaine, nous allons vous parler d'un sommet, parce qu'on n'a pas entendu ni lu nulle part un sommet latino-américain en République dominicaine. Nous allons parler du Chili, de la Colombie, du Brésil. Et si nous avons le temps, nous allons passer un reportage de Radio Nationale d'Espagne gardé dans les archives de Dopeal sur un écrivain chilien qui vient de disparaître et que nous avons eu la chance d'interviewer il y a quelques années. Je laisse la parole à Béatrice pour nous parler de ce sommet latino-américain en République dominicaine.
Oui, la communauté ibéro-américaine que beaucoup considéraient depuis longtemps comme morte ou inutile, se consolide. Malgré ses contradictions et ses faiblesses, la conférence qui réunit les 22 pays hispanophones et lusophones d'Amérique et d'Europe a tenu un sommet des chefs d'État et de gouvernement ce samedi à Saint-Domingue, République dominicaine, qui est le 28e depuis l'inauguration, tenu en 1991 à Guadalajara, au Mexique. Et le prochain rendez-vous est déjà fixé, ce sera à Quito, en Équateur, le 29 novembre 2024. En comparaison, d'autres organisations bien plus ambitieuses ont accusé le renversement de la carte politique de la région. La communauté d'Amérique latine et des Caraïbes, États-Unis, CELAC, ça s'appelle la CELAC, a célébré 7 sommets au cours de ses 15 années de vie. Et l'Union des Nations Sud-Américaines, l'UNASUR, ne s'est pas réunie depuis 2014. 13 délégations conduites par leurs chefs d'État ou de gouvernement se sont rendues à Saint-Domingue. L'Espagne et le Portugal ont été représentées 2 fois par leur roi ou président et par son premier ministre, 2 de moins que ceux qui avaient assisté au dernier sommet en face-à-face avant la pandémie à Antigua au Guatemala en 2018. L'absence la plus retentissante a été celle d'André Manuel López Obrador, le président mexicain, est allergique aux voyages à l'étranger, mais son absence montre aussi qu'il n'a pas donné à Philippe VI de ne pas avoir, qu'il n'a pas pardonné à Philippe VI de ne pas avoir répondu à la lettre dans laquelle il s'excusait des excès de la colonisation de l'Amérique. C'est la seule façon d'expliquer pourquoi il a envoyé le sous-secrétaire pour l'Amérique latine au sommet et non un ministre comme les autres présidents qui ont raté le rendez-vous. L'autre grand absent du sommet a été le Brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, mais contrairement à López Obrador, il s'est excusé en affirmant qu'il avait prévu un voyage en Chine, bien qu'il ait finalement dû l'annuler en raison d'une pneumonie et envoyé à Saint-Domingo, ministre des Affaires étrangères, Mauro Vieira, pour le représenter. Après l'éloignement de son prédécesseur, Jair Bolsonaro, la communauté ibéro-américaine fait confiance à Lula pour assumer un rôle de leadership dans la région et organiser le sommet de 2026 qui sera le numéro 30. Les autres absences étaient comme prévu, de celle de la péruvienne Dina Boluarte, qui ne peut pas quitter son pays sans l'autorisation du Congrès. Les présidents de la Colombie et de l'Argentine assurent l'intégration latino-américaine comme un défi en suspens. L'intégration latino-américaine a été l'un des grands défis d'une région marquée par la division entre blocs politiques, mais le 28 sommet latino-américain a servi à relever un défi en suspens qui n'est pas considéré comme impossible, comme l'ont déclaré les présidents Gustavo Petro, le Colombien, et Alberto Fernandez, l'Argentin. En pratique, on fait peu pour une véritable intégration, a déploré Gustavo Petro, qui, lors de son allocution, a proposé d'avancer dans ce domaine en prenant des références tangibles comme l'énergie propre. L'unité, selon le président argentin Fernandez, est essentielle pour préserver les intérêts communs tout en respectant la diversité idéologique. Nous sommes moralement obligés d'unir nos efforts car nous sommes tous passagers sur le même bateau.
Tout à fait. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on essaie d'unir notre continent comme a fait l'Europe, l'Union européenne. Et on a évoqué là aussi, c'est dommage que nul média français a évoqué ces sommets parce qu'on a abordé par exemple le fait de la situation en Ukraine. Et à ce sujet, par exemple, le président colombien Gustavo Petro a indiqué que nous ne sommes avec personne, nous sommes avec la paix, c'est pourquoi aucune arme ne sera utilisée dans ce conflit. Ça, c'est Gustavo Petro de Colombie. Et Lula aussi, dans le même sens, a parlé dans le même sens. Et il a indiqué, le Brésil n'a aucun intérêt à envoyer des munitions à utiliser dans la guerre. Le Brésil est un pays de paix et ne veut donc aucune participation. Même en direct, nous devrions chercher quelqu'un qui puisse aider à trouver la paix entre la Russie et l'Ukraine. Et le président du Chili a indiqué « Nous défendrons toujours le multilatéralisme, la résolution pacifique des conflits et la validité des droits de l'homme. » Et l'Argentin, comme vient de dire Béatrice aussi, a indiqué que l'Argentine n'avait pas l'intention d'envoyer des armes à l'Ukraine ou à tout autre pays en conflit. Et finalement, le président qui n'a pas assisté, le président du Mexique, a indiqué aussi qu'il était particulièrement critique à l'égard de l'approvisionnement en armes de l'Ukraine. Voilà donc ce sujet délicat, justement, mais je retiens le fait que le président colombien et le président argentin veulent l'union de notre Amérique latine.
Thank you.
musique de l'Amérique latine. C'est gay, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Béatrix?
Oui, c'est très gay.
Vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler d'un pays du bout du monde. Parce qu'on dit du bout du monde, non?
Oui.
Le Chili.
Oui, un nouveau revers pour le président Boric. C'est embêtant. Les députés ont rejeté le projet de réforme fiscale du chef de l'État. Le gouvernement chilien espérait l'approbation de sa réforme fiscale, une loi essentielle de son programme. Le texte devait ouvrir la voie à d'autres réformes promises. Mais la coalition de gauche a essuyé un revers majeur. La Chambre des députés a refusé, à une voix près, d'un débat sur la réforme fiscale proposée par le gouvernement. Le dépôt du projet de loi au Sénat demeure possible, mais son approbation semble chimérique, le gouvernement ne pouvant compter sur les deux tiers des voix nécessaires. Après le rejet de son texte, Gabriel Boric a pris la parole. Il semble que l'objectif de certains est de faire obstacle au changement, mais ils font du mal à des millions de Chiliens et de Chiliennes qui souhaitent depuis des années un pays plus juste, un système de santé qui les protège et ne les pousse pas à l'endettement, un pays avec des retraites dignes. Sans préciser la méthode ni le calendrier, le président a affirmé qu'il soumettrait de nouveau son projet de réforme au Parlement. Notre gouvernement ne va pas tomber dans l'immobilisme, a-t-il promis.
Oui, et il y a un sociologue de l'Université catholique du Chili, de Santiago, qui indique aussi que les votes des députés fragilisent le gouvernement sur le plan institutionnel, mais peut le rendre plus populaire auprès de l'opinion publique. Voilà, donc parfois c'est ça qu'il y a des problèmes avec les députés, qui sont parfois manipulés par des pouvoirs économiques. Donc nous allons parler maintenant de la Colombie.
Le président Gustavo Petro en difficulté. Le chef de l'État est accusé de vouloir inclure dans les négociations de paix des groupes criminels. Le président avait annoncé le 13 mars l'ouverture de négociations avec la faction dissidente des FARC, Force armée révolutionnaire de Colombie. Le procureur Francisco Barbosa avait accepté de lever les mandats d'arrêt en cours contre 19 des chefs de l'organisation afin de faciliter les pourparlers. Les partis ont annoncé s'être mis d'accord sur une feuille de route de négociation et avoir examiné les bases d'un éventuel cessez-le-feu. Les partisans de la paix se veulent optimistes, mais les difficultés s'accumulent sur le terrain, tandis que dans les médias, les critiques se multiplient. Le gouvernement insiste, il n'y aura pas de négociation politique avec les groupes criminels. Mais la droite accuse Gustavo Petro de vouloir livrer le pays aux narcos. L'or et la cocaïne alimentent les caisses de tous les groupes armés colombiens et sur le terrain, la ligne qui sépare les groupes politiques des groupes criminels est parfois bien floue.
Oui.
Le projet de loi de reddition et démantèlement des structures criminelles présenté au Congrès devrait être approuvé sous peu. Si les criminels n'acceptent pas les règles du jeu fixées par l'État, ils devront être poursuivis avec détermination, a indiqué le sénateur Ariel Avila.
Oui, et avant de continuer, je voudrais vous informer qu'il y a, au sujet du Chili, en fait, un thriller d'une réalisatrice argentine ou chilienne, je crois que c'est chilienne, qui s'appelle Manuela Martelli, et ce film s'appelle Chili 1976. Et on nous dit qu'une élégante bourgeoise a caché des révolutionnaires, en fait. Donc, il y a beaucoup de suspense dans c'est une sorte de film documentaire. Mais nous allons passer à une pause musicale.
Thank you.
Gracias a la vida, une chanson composée et chantée dans le temps par Violeta Parra, chilienne. Et nous allons parler du Brésil, n'est-ce pas, Béatrix ?
Oui, les débuts difficiles pour Lula. Deux mois après l'investiture du président, sa popularité plafonne sur fond de morosité économique. À la tête d'un pays ébranlé, le président de gauche a maintenu un agenda tout azimut et bénéficié d'une forme d'union sacrée, mais a aussi suscité des déceptions et de premières critiques. Le chef de l'État, âgé de 77 ans, a d'abord tenu à restaurer l'image du Brésil à l'international. Il a reçu à Brasilia le chef d'État allemand Olaf Scholz, ainsi que la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. Lula a aussi donné des gages à Washington et s'est rendu en février à la rencontre de son homologue états-unien Joe Biden à la Maison-Blanche. Sur la scène intérieure, Lula a mis toute son énergie à refonder les programmes sociaux mis à bas par son prédécesseur. Fin février, le gouvernement a également rétabli le Conseil national pour la sécurité alimentaire, essentiel au combat contre la faim, supprimé par Jair Bolsonaro. Lutte contre le racisme, les féminicides, les armes à feu ou en faveur de la vaccination. L'actuel pouvoir tient à se démarquer en tout point du précédent. Malgré l'enthousiasme, de premiers doutes ont déjà émergé. Le gouvernement Lula ne bénéficie, selon les sondages, que de 40% d'opinions favorables. Autres sujets ont suscité des déceptions. Malgré une opération d'ampleur des forces de sécurité contre l'orpaillage en terre indigène Yanomami, la déforestation atteint des records au mois de février en Amazonie. Les alliés occidentaux du Brésil reprochent par ailleurs à Lula sa neutralité concernant le conflit en Ukraine, son refus de condamner aux Nations Unies les violations des droits humains commises au Nicaragua ou l'autorisation accordée à deux navires de guerre iraniens d'accoster dans la baie de Rio de Janeiro. La situation est très compliquée. Lula essaie de dégager des marges de manœuvre, de trouver de l'oxygène afin d'avancer sur son agenda social. On est encore en phase de stabilisation, pondère Flavia Biroli, politiste à l'Université de Brasilia. Lula bénéficie enfin de la mise en retrait de son prédécesseur, toujours exilé en Floride, et frappé par un nouveau scandale. Selon la presse, Jair Bolsonaro aurait tenté de rapporter au Brésil, sans les déclarer, un assortiment de bijoux précieux d'une valeur de 3 millions d'euros. Cadeau du gouvernement saoudien. L'ensemble, qui comporte un collier de diamants, a été saisi par les douanes brésiliennes.
Merci. Bon, espérons que Bolsonaro va essayer de revenir comme maintenant Trump aux États-Unis. Et nous allons vous faire entendre un extrait d'un reportage envoyé par Radio Nationale d'Espagne sur un écrivain chilien, Jorge Edwards, qui vient de décéder. Voilà, donc n'oublions pas, c'est un reportage en espagnol.
Diálogos en un tejado, el más reciente libro de Jorge Edwards. Dentro de la tradición de grandes cronistas existente en Chile, el escritor Jorge Edwards cultiva este género en su más reciente libro. Diálogos en un tejado, el título de la última publicación de Edwards, es una recopilación de las crónicas que cada viernes publica en el vespertino chileno La Segunda y en algunas ocasiones en el diario El País de España. Diálogos en un tejado pretende ser una muestra generacional de lo que le ha tocado vivir al escritor.
Cuando yo era muy joven, y empecé a conocer a algunos escritores de mi tiempo, que eran gente que comenzaba a escribir, íbamos mucho a una casa colonial en Santiago de Chile, que era muy baja, y donde había mucho ruido, porque era una casa donde ensayaba el coro de la Universidad de Chile. Entonces nos subíamos al tejado a conversar. Por eso yo escribí una crónica sobre esas conversaciones de mi generación, en que yo escuché por primera vez hablar de la existencia de un escritor que se llamaba Jorge Luis Borges, por ejemplo, que no era nada conocido en Chile en ese tiempo, de Kafka, de Jean-Paul Sartre y toda esa gente. Por eso es un título generacional. Es un título generacional. Al otro lado de esa casa, además, estaba el manicomio de Santiago. Yo creo que tenía alguna relación esa situación, ese paisaje de unos locos con unos capotes militares viejos y nosotros hablando de Kafka arriba del tejado.
Las crónicas de Edwards tratan sobre diferentes temas de la actualidad o apreciaciones personales del autor. Poseedoras de la acidez que caracteriza al autor de El sueño de la historia, las crónicas suelen tener una gran acogida entre los lectores del diario. Edwards, reconocido como novelista, dice sentirse cómodo en la breve extensión de una crónica.
Es que soy escritor también de novelas. Yo soy un escritor de novelas y de cuentos, y que lateralmente hace crónica. Pero yo he tratado de hacer que la crónica sea un género literario también. Y a mí me gusta la crónica como género. Y enseguida me gustan los géneros breves. Siempre me han gustado. Me gusta el cuento y me gusta la crónica. Chile es un país que ha tenido muchos cronistas. Tiene bastante tradición de cronista. Pero también España, ¿no? Es un país de cronistas. Y después yo pasé varias veces por el Brasil. Y fui amigo de los poetas brasileños de los años 50, 60, y había entre ellos grandes cronistas. Así que el género de esa crónica, que no se sabe muy bien lo que es, porque la crónica es un pequeño ensayo y también puede ser un pequeño cuento, me atrae, me gusta, lo hago una vez por semana. Estas crónicas, en su casi totalidad, han sido publicadas en un diario de la tarde de Santiago, que se llama La Segunda, y han sido publicadas en la edición del día viernes, porque ese diario no sale el fin de semana. Entonces hay una edición más gruesa el viernes, y en esa edición va mi crónica, y la gente se la lleva y la lee en el fin de semana, así, se la lleva como lectura de fin de semana.
Jorge Edwards, por su antigua profesión de diplomático, sus inquietudes intelectuales y el entorno de su familia, una de las más aristocráticas de Chile, ha tenido mucho contacto con círculos intelectuales. Son estos recuerdos los que, además de la actualidad, inspiran las crónicas que forman parte de este libro.
Este libro tiene tres partes, en realidad. Tiene una parte que se llama preferencias, y que son en realidad preferencias estéticas, no solo literarias, porque hay notas sobre pintores, algunos pintores chilenos, y otros pintores universales. Por ejemplo, hay un artículo sobre Delacroix y su viaje al norte de África, que es una exposición muy bonita que vi una vez. Hay un artículo sobre Cézanne, me parece. Y son preferencias literarias. Y después hay una segunda parte que se llama devaneos. Esos son... Yo tengo algo de vagabundo, ¿eh? Y siempre me dicen el diplomático. Yo dejé de ser diplomático, ¿sabe cuándo? En 1973, hace nada menos que 30 años. Y después fui diplomático durante un par de años en la UNESCO, y me aburrí tanto que renuncié, que nadie renuncia a esas cosas, yo renuncié. Así que imagínense, no me pongan ustedes el cartón de diplomático, porque soy muy poco diplomático. Entonces esa segunda parte es eso, vagabundeos, paisajes, comidas, vinos, hasta animales, hay un gato por ahí, y a veces también hay alguna señora atractiva, pero pasa como una sombra, ¿verdad? Y hay una tercera parte que sí, que es una parte más de reflexión sobre la vida política y sobre la vida social, cultural de nuestros países. Pero yo hago una reflexión no científica y sin pretensiones dogmáticas de ninguna clase. Es una reflexión muy abierta.
Sintiéndose honrado por la distinción, Edwards reconoce que en su país, el Cervantes, le ha servido para levantar envidias más que para alcanzar un mayor reconocimiento.
El premio Cervantes, que es inmensamente conocido acá, y que es un premio formidable que a mí me conmovió mucho y me gustó mucho recibir y todo eso, es bastante poco conocido en América, y sobre todo en Chile, porque en Chile somos remotos, ¿eh? Estamos detrás de esa cordillera que nos separa mucho. Al comienzo no sabían lo que era y me preguntaban si lo había recibido por El sueño de la historia, por mi última novela, lo que indica que no sabían de qué se trata. Y entonces ha tenido algunos inconvenientes para mí allá, porque ha despertado algunas envidias, ¿no? y algunos escritores que eran amigos míos se ponen un poco raros, se ponen sombríos y miran para otro lado y tienen actitudes raras. Pero básicamente para mí el premio ha sido un estímulo para seguir escribiendo, porque yo pienso seguir escribiendo un rato todavía.
Una recopilación de la realidad vista a través del particular espejo del escritor Jorge Edwards.
Notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrix qui nous a livré des infos sur l'Amérique latine. Muchas gracias, hasta pronto. Mercedes Sosa.
Cambia en lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como...